Bonjour à tous. Donc, je suis Ludovic Julien, je suis le chimiste, on va dire, de la matinée, de la journée, des 2 jours en fait. Donc, je vais vous parler de vivant, de vie. Je ne vais pas l'aborder sous l'angle de définition, j'apporterai pas de réponse. Je vais essayer de vous montrer en quoi cet horizon, le vivant, est quelque chose qui présente un défi pour un chimiste. C'est mon but en fait. On va commencer par jouer. Donc voilà, c'est le jeu de chasser l'intrus. Vous avez 4 objets sur la diapositive et vous avez 15 secondes pour me choisir celui qui vous semble un intrus au niveau de la liste. Alors, de manière générale, il n'y a pas de bonne réponse pour cette question. C'est une manière d'apprendre de la personne qui réfléchit pour fournir la réponse. En gros, ça me permet de voir tout à fait quelle est sa culture. Alors pour moi, l'objet qui évidemment est l'objet très très singulier parce que je suis un chimiste justement, c'est celui-ci. Et donc je vais essayer de vous montrer pourquoi. Alors j'ai été élevé dans le cadre canonique de la chimie, il y a 200 ans à peu près d'histoire moderne, on va dire, de la chimie qui s'est construite avec un certain nombre de constantes. Et donc, quand on regarde la cellule, puisque c'est une cellule vivante, donc, j'ai montré, elle présente un certain nombre de caractéristiques qui ne correspondent pas du tout au canon, en fait, de ce que la chimie nous enseigne. Une cellule, c'est un milieu concentré. Grosso modo, vous avez la concentration de l'eau de mer comme référence pour les inorganiques, mais pas du tout pour la matière organique. Une cellule n'est pas un objet pur. Alors que les chimistes, en général, depuis le 19e, ont sacralisé la notion de corps pur, de la même manière qu'on travaille plutôt sur des systèmes dilués dans un cadre académique. On a déjà évoqué la dualité à la fois construction-destruction. C'est quelque chose qui, du point de vue du canon, est assez étonnant, en tout cas dans la chimie depuis, on va dire, la deuxième moitié du XXe siècle, où on valorise la synthèse, mais très peu la dégradation, comme une opération qui présenterait un intérêt. Dans un monde soutenable, pourtant, ça l'est. Une cellule, c'est très hétérogène du point de vue de son organisation. Et ça aussi, c'est assez bizarre dans le cadre du canon de la chimie, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une hétérogénéité à toutes les échelles, du nanomètre, 10-9 mètres, jusqu'en gros à 10 microns, 10-5 mètres. Une cellule n'est pas constante. Et j'ai mis, elle s'adapte aux contraintes extérieures. Ça, les chimistes savent faire. Des systèmes qui s'adaptent aux contraintes extérieures, mais néanmoins, elle a une caractéristique qui la rend un peu singulière, et le mot a déjà été utilisé au moment des questions, elle est dissipative, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'énergie, en fait, pour avoir ce type de comportement un peu particulier. Ce n'est pas une nécessité, puisqu'il y a des systèmes qui n'en ont pas besoin, mais néanmoins, elle fonctionne comme cela. Une cellule a une dynamique particulière. Bon, même si là encore, il y a des développements actuellement en chimie qui permettent de reproduire certaines des dynamiques, si on pense par exemple à la notion de réaction oscillante qui a été évoquée un petit peu à travers le bzz de BZ, donc à travers les questions. Et puis, il y a une dimension qui est très singulière en biologie et qu'on n'a pas en chimie, c'est cette notion d'histoire, finalement, biologie, sciences historiques, s'opposant d'une certaine manière à une chimie qui n'a pas une telle profondeur historique pour être intelligible pour l'observateur. Donc, du coup, si on regarde ce qu'est la cellule comme type d'organisation, clairement, pour un chimiste, elle nécessite d'avoir un certain décalage du regard pour être au plus pertinent par rapport à l'analyse de ce qu'on regarde. Alors, en quoi le vivant est un objectif intéressant pour un chimiste. Si on l'envisage sous l'angle justement d'une structure dissipative qui consomme de l'énergie, voire qui se reproduit, et dans la perspective d'une chimie qui traditionnellement fait des choses utiles, on peut s'interroger sur l'intérêt que présente la synthèse d'un être vivant, ce que je vais être amené à illustrer par la suite. Alors en fait, un certain nombre des critères qui ont été évoqués, présentent un intérêt. Par exemple, cet aspect de la gestion de manière intégrée, matière-énergie, qui est assez spécifique donc au niveau des êtres vivants et qui résonne par rapport à des considérations qu'on a aujourd'hui, telles que la notion de monde durable. La notion de phénotype, assez spécifique finalement des êtres vivants, qui est quelque chose qui n'existe pas de la même manière, on va dire, en chimie, et le fait que finalement votre expression dépend des conditions environnementales est quelque chose d'assez intéressant. Si on raisonne en termes de matériaux, par exemple, vous pouvez voir la cellule comme vous disant ce qui se passe à l'extérieur du monde, justement à travers cette notion de phénotype. Donc c'est un objet analytique, vu du point de vue de la chimie, mais on n'a pas d'outil analytique qui fonctionne tout à fait de cette manière au jour d'aujourd'hui. Et puis, si on veut voir la cellule comme le résultat d'une histoire, et si on était capable d'extraire justement cette information historique par l'observation du présent de l'objet, eh bien, on aurait une manière assez intéressante d'encoder, de stocker l'information. Donc, il y a en fait des éléments qui motivent, pour un chimiste, l'étude et la réflexion autour de cette forme d'organisation de la matière particulière qu'est la matière vivante. Donc, du coup, cette idée de construire des objets chimiques vivants, et j'utilise vivants jusqu'à présent, apparaît comme un horizon qui est un horizon intéressant. Donc, à ce stade-là, il faut finalement interroger ce que sont les défis vu du point de vue de la chimie. Hop là. Eh bien, dis donc. Alors, on va commencer donc par la première ligne directrice, qui est la ligne historique essentiellement, de regarder les êtres vivants comme une forme d'organisation de la matière et donc de se concentrer sur ce qui constitue la matière vivante, c'est-à-dire les molécules, pour utiliser un langage chimique. Et donc l'essentiel du travail qui a été mené jusqu'à présent par les chimistes pour essayer justement de construire un objet vivant passe par la reproduction des molécules du vivant. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que, et ça a été dit par Madame Fagot-Largeau, il existe pour l'instant une vie en tant que processus global sur une planète qui s'appelle la Terre. Donc c'est ce qu'on connaît, et la manière la plus, on va dire, évidente du point de vue de la reproduction du vivant, c'est de reproduire les molécules de la vie. Et donc ça a été traditionnellement, on va dire, l'approche utilisée. Donc ce sont les molécules qui constituent le but du travail, et je pense qu'on peut donner deux exemples d'approche de ce point de vue. C'est tout le travail sur la question de savoir finalement parmi les biomolécules quelles sont les molécules les plus originelles. On aura l'occasion, je suppose, d'entendre parler du monde ARN au cours de ces deux jours. Et puis une autre approche, cette fois-ci, qui est celle du chimiste, qui constitue là encore une approche fondée sur les structures, obtenir des molécules fonctionnelles avec les machines moléculaires, qui a donné lieu au prix Nobel donc, de cette année, avec en particulier Jean-Pierre Sauvage, dont on est content qu'il l'ait reçu. Donc du coup, cette idée de passer par des molécules fonctionnelles comme étant une étape pour obtenir un être chimique vivant est quelque chose qui est très fortement inscrit au sein de la communauté. Néanmoins, ça pose un certain nombre de questions. La première est précisément de savoir, finalement, si on parle des molécules du vivant, quelle est la première molécule, etc. C'est une discussion sans fin. Ça pose une autre question assez difficile, en fait, qui est de savoir dans quelle mesure ce qu'on observe aujourd'hui est un reflet de ce qui a émergé initialement. Ça pose des problèmes profonds quand on compare le temps de l'évolution par rapport au temps des réactions chimiques. Il y a quelque chose d'un peu perturbant. Et puis, ça ne résout pas un problème qui est un problème essentiel, qui fait que de toute façon, pour obtenir un être vivant, il faut avoir plusieurs objets, plusieurs molécules qui interagissent les uns avec les autres. Donc, ça passe par une intégration. Et poser la question en termes de quelle molécule ne répond pas à la question quelle intégration pour ces molécules. Donc une autre approche qui peut être utilisée, qui a émergé en fait progressivement au cours de l'histoire, mais qui tend à se développer beaucoup ces derniers temps, consiste à voir la vie non pas tant comme une forme d'organisation de la matière, mais aussi, et c'est complémentaire, comme une forme d'organisation de l'énergie. À ce moment-là, l'objectif ne devient pas tant la molécule, les acteurs donc, que l'on voit, mais les processus, c'est-à-dire toutes les interactions, les réactions, les phénomènes de transport qui gouvernent le fonctionnement de ces molécules. Du point de vue du questionnement, on retrouve le questionnement qui s'applique sur les molécules comme but, c'est-à-dire la question de savoir finalement quel est le processus originel. Et on est sur la route à partir d'un phénomène, on va dire, purement inerte, monde non vivant, donc d'une réaction chimique spontanée, qui nous mène jusqu'à ce qu'est un métabolisme, par exemple, dans le cas d'un micro-organisme. Là, on a un élément de réponse qui, finalement, n'est pas très fort du point de vue de nous diriger vers une stratégie de synthèse, mais néanmoins qui est un principe fort de la physique, qui est celui, en gros, du second principe de la thermodynamique, qui nous donne finalement une flèche de l'évolution et nous dit ce qui est possible et ce qui est moins possible, a priori. Donc, par rapport à fixer, la relation entre conditions initiales et puis ce qu'on observe aujourd'hui, à partir du moment où on dit qu'un être vivant est dissipatif, eh bien, il nous faut de l'énergie. Il faudra de la matière, mais il faut de l'énergie. Et les sources primaires d'énergie en chimie, c'est bien identifié. En gros, le potentiel de réactivité d'une molécule, on a des idées assez précises. On connaît les paramètres, en l'occurrence, qui influent sur justement le potentiel de réactivité des molécules. L'avantage de cette approche, c'est que les processus intègrent directement les molécules, les réactifs qui réagissent entre eux, le lien entre les réactifs et les produits. Donc, tout naturellement, cette représentation permet d'aboutir à un système intégré. Et puis, ça a déjà été mentionné, les processus ne sont pas restreints aux molécules de la vie telles qu'elles existent sur Terre au jour d'aujourd'hui. Et s'il s'agit de répondre à une question telle que quelle émergence de vie sur une exoplanète, eh bien, il faudra considérer des contraintes physico-chimiques distinctes et éventuellement la possibilité que les processus menant à l'évolution s'appliquent à des objets qui ne sont pas les objets finalement qui ont été sélectionnés sur Terre. En deux mots, au niveau des sources d'énergie, on les connaît donc très très bien. Soit on a de l'énergie quand on a deux réactifs qui ont envie de réagir l'un avec l'autre, mais qu'ils font très lentement. C'est le cas de l'oxygène qui est dans cette pièce, qui, a priori, du point de vue de son potentiel, pourrait réagir très rapidement avec chacun d'entre vous et vous détruire, mais qui est très inerte. Donc, il y a la possibilité d'accélérer ces processus et donc de donner lieu à des phénomènes intéressants. La température est un paramètre de contrôle. Donc, on sera peut-être amené au cours de ces journées à parler des hypothèses donc de montée hydrothermale sur l'évolution donc de la vie sur Terre. Et puis, la lumière, qui contient beaucoup d'énergie, qui, elle aussi, donc est susceptible de vous permettre de commencer à avoir des histoires intéressantes de molécules. Donc, du point de vue du potentiel, on sait à peu près quelles sont, disons, les grandes sources primaires d'énergie qui ont certainement joué un rôle initialement et qui joueraient un rôle en tout lieu de l'univers, on va dire, a priori. Le possible ne vous dit pas comment et n'est pas capable de vous donner une solution à nouveau mécanistique sur, à partir d'une condition initiale, comment je vais faire pour obtenir un être vivant. Donc, il vous faut des clés. Alors, la clé, de manière générale, et on l'a dit là encore, par rapport à cette résistance du vivant à la mort, c'est le côté, en gros, d'essayer de gouverner le destin de la matière au-delà de sa force à se détruire elle-même, qui est l'évolution spontanée d'un système chimique. Et de fait, si je prends par exemple cette cellule initiale, que je la regarde avec la culture qui est la mienne, je ne suis pas capable de savoir si cet objet va vous donner lors du développement cette charmante danseuse ou bien cette charmante grenouille. Néanmoins, si on analyse en des termes assez généraux ce que mange cet objet-là pour se développer, finalement, il n'y a pas de grande différence entre ce que mange la danseuse et ce que mange la grenouille, ce qu'elles absorbent pour se développer. Néanmoins, de manière évidente, le destin de la matière dans un cas, c'est de devenir la danseuse et dans l'autre, de devenir la grenouille. Et si je permets au système de relaxer sur les critères habituels de la chimie, ben je sais que la fin pour les deux, c'est ça. C'est en gros quelque chose qui est beaucoup moins intéressant que la grenouille et que la danseuse. Donc, de ce point de vue, pour réussir à obtenir une forme intéressante d'organisation, il va falloir piloter complètement l'évolution de la matière du point de vue de sa dynamique, en fait, d'évolution. Alors, l'objet qui a été développé au cours de l'histoire pour justement gouverner la cinétique des réactions en chimie, c'est la catalyse. Alors, très souvent, dans les livres de biologie, on trouve ce genre de petit schéma qui nous dit, voilà, la catalyse, c'est... Tu comprends, il faut beaucoup d'énergie pour transformer un réactif en produit. La catalyse, ça te permet en fait d'avoir un petit raccourci qui te permet de traverser la montagne et de fournir moins d'énergie, donc les phénomènes sont plus rapides. C'est vrai, Sauf qu'en fait, la catalyse fait beaucoup plus. Elle change totalement le destin de la matière, c'est-à-dire qu'elle explore des voies du point de vue de la réaction qui sont totalement différentes de ce que vous auriez en absence de catalyse. Et catalyse doit être ici entendue dans un sens très très général. En général, depuis Michaelis-Menten, la représentation qu'on a de la catalyse, c'est essentiellement cet échange dans lequel, par exemple, une protéine va prendre un substrat et le prédisposer à la réactivité. Mais de manière plus générale, les cycles, les grands cycles biologiques, tels qu'on les trouve représentés dans les livres de biochimie comme ceci, agissent aussi comme des catalyseurs, de manière formelle. Et ça, c'était quelque chose qui avait été très très bien vu par Manfred Eigen dès les années 70, où la perspective n'est plus tant ce type de représentation qu'on trouve dans les livres de biochimie, mais de dire, voilà, j'ai des sources d'énergie, ici par exemple l'hydrolyse de l'ATP. Si j'ai la possibilité d'accélérer cette réaction par soit une catalyse de ce type, soit une catalyse de ce type, eh bien je vais pouvoir me greffer, en quelque sorte, sur cette source d'énergie et me mettre à me développer. Et sur ces cycles mêmes, on peut continuer à se développer, ainsi de suite. Et donc là, dans ce cadre de représentation, ce qu'on appellerait en quelque sorte la transition non vivant-vivant, c'est cette capacité qu'il y aurait à développer une histoire intéressante sur une source d'énergie. La question que ça pose est de savoir comment on va réussir à coupler cette source d'énergie avec la catalyse, et puis ensuite un acte catalytique ici avec un autre, et ainsi de suite. Donc on a besoin pour cela d'une technologie, qui est une technologie qui va coupler finalement des sources d'énergie et vous permettre de propager cette énergie à l'intérieur de ce qu'on appelle le métabolisme. Aujourd'hui en biologie, vous avez cette jolie vis d'Archimède qui vous permet de convertir la vitesse de déplacement du fluide en énergie potentielle, par exemple. Donc on va prendre rapidement un exemple, qui est un exemple classique de la biologie, qui est phénoménal pour le chimiste, qui est celui de la synthèse de l'ATP. Donc l'idée de l'ATP, je ne rentre pas dans le détail de la structure, c'est de prendre en fait deux constituants, l'ADP et puis du phosphore inorganique, et de les faire réagir pour obtenir une molécule un peu magique en biologie qu'on appelle l'ATP. Et pour ça, je vous donne un photon, et je vous donne un photon rouge. Et je vous dis maintenant, imaginez que vous êtes Dieu, trouve-moi la solution pour transformer ADP plus phosphore inorganique en ATP avec un photon rouge. Et en fait, voilà une question pour un chimiste extrêmement difficile, parce que ni l'ADP ni le phosphore inorganique n'absorbent un photon rouge. Donc il n'y a pas d'interaction a priori entre l'énergie dans la lumière et ces molécules pour donner finalement de l'ATP. Donc comment on fait? Eh bien, la nature vous fournit la réponse. Par exemple, tout l'appareil photosynthétique des bactéries, des plantes, etc., réalisent cette opération formidable. Vu du point de vue du chimiste, il faut savoir qu'il y a à peu près de l'ordre de 10 000 molécules qui sont impliquées dans cet acte-là. C'est ce que j'appelle une solution déprimante. C'est-à-dire que le fait d'analyser la manière avec laquelle ça se passe ne va pas vous permettre très facilement de concevoir vous-même une technologie qui va vous permettre de convertir l'énergie du photon rouge en réalisation de la réaction de synthèse de l'ATP. Donc, on peut bien sûr avoir une approche biomimétique, qui va être une reproduction d'un certain nombre des éléments, reproduire des événements élémentaires, mais à nouveau, si on pense de manière intégrée, on est en grosse difficulté. Il faut s'abstraire, d'une certaine manière, de la solution trouvée par la nature, de manière assez aléatoire, en allant vers des choses qui seraient plus simples, vraisemblablement, pour réaliser ce type d'opération. Donc ici, je donne juste quelques clés, toujours avec cette idée de piloter au sens du point de vue de la cinétique, la vitesse à laquelle les réactions se font pour vous propulser dans une direction particulière. L'idée, c'est d'avoir un certain nombre de processus, qu'on appellera des processus maîtres. Ça peut être des réactions chimiques, ça peut être des processus de transport, qui vont contraindre la réalisation d'un certain nombre de réactions, qu'on peut appeler des réactions esclaves, et induire une sorte de frustration qui fait que la matière, au lieu de relaxer vers son destin, qui est la boucle que je vous ai montrée tout à l'heure, se retrouve contrainte à évoluer dans une direction particulière. Et donc, il y a un certain nombre de travaux récents dans cette direction, et je pense qu'il y en aura plus bientôt, dans la mesure où il n'y a pas, on va dire, d'obstacle conceptuel, analytique, théorique, pour concevoir justement des êtres chimiques vivants selon cette approche. Donc du coup, pour conclure, en fait, l'activité programmatique du chimiste jusqu'à présent est essentiellement restreinte, on va dire, depuis le milieu du 19e siècle, à de l'activité de synthèse constituant à assembler des petites molécules pour obtenir des molécules plus complexes. Depuis, en fait, les années 60-70 du siècle précédent, cette idée d'assembler des molécules par des interactions qu'on appelle non covalentes pour obtenir des supermolécules fait partie du répertoire d'activité des chimistes. Et je prédis que dans un avenir proche, désormais, les chimistes devraient être en mesure d'ajouter à leur répertoire la synthèse d'êtres vivants. Et je suis prêt à en discuter, donc, si cela vous intéresse.
Donc avant de commencer, je voudrais vous remercier pour l'invitation à participer à ces deux jours de colloque. Et la raison pour laquelle j'utilise mon ordinateur, c'est que je vais beaucoup vous parler de dynamique. Et c'est assez difficile de vous parler de dynamique sur des images figées. Donc j'ai pas mal de films et j'avais peur que cela ne marche pas sur le système qui était disponible. Donc je vais vous parler de l'auto-organisation du vivant. Et en gros, il va y avoir deux parties dans mon séminaire. Je vais essayer de vous introduire des principes très généraux sur l'auto-organisation du vivant et plus particulièrement sur sa dynamique. Et ensuite, j'ai décidé de vous prendre trois exemples précis sur des expériences récentes pour illustrer l'auto-organisation dynamique, notamment dans les cellules. Et sans se consulter avec Julien, j'ai commencé par quatre images. J'ai pas choisi ces images au hasard, d'abord parce qu'elles représentent l'auto-organisation du vivant dans toute sa diversité et dans toute sa complexité, mais aussi dans toute sa beauté. Je trouve que lorsqu'on étudie l'auto-organisation du vivant, on est toujours fasciné par la beauté du vivant. Et ici, la diversité est notamment illustrée par les différences d'échelle. Donc, si vous regardez ici une touffe ciliaire que vous avez dans l'oreille interne, et qui est composé d'extensions cytoplasmiques qu'on appelle les stérocyles. Chaque bâtonnet que vous voyez ici va avoir une dimension de quelques centaines de nanomètres. Et si on va de l'autre côté de cette diapo, vous avez l'auto-organisation d'organismes qui sont ici des poissons. Bien sûr, la structure que vous voyez ici va avoir une dimension de quelques mètres. Donc vous voyez ces différences de taille que peut avoir l'auto-organisation. Ici, vous avez un exemple d'auto-organisation du cytosquelette, et je vais revenir pendant ma présentation. Et ici, un exemple classique de fractal dans le vivant, dans le chou romanesco. Donc, de façon conceptuelle, lorsqu'on étudie le vivant, on peut assez facilement comprendre comment des gènes donnent lieu à des peptides ou des polypeptides, comment ces polypeptides vont se replier pour donner naissance à des protéines. Il reste beaucoup plus compliqué de comprendre comment ces protéines vont s'organiser ou s'auto-organiser pour générer des structures complexes à l'intérieur des cellules. Et si on ajoute la dynamique du système, là on fait face à vraiment ce qui me semble être le défi du vivant, c'est de comprendre sa dynamique. Et pour comprendre sa dynamique, on a bien sûr plusieurs obstacles, et un de ces obstacles est évidemment un problème d'échelle à résoudre. En effet, ce que l'on doit résoudre, c'est de comprendre comment un objet, ici une protéine qui a quelques nanomètres de taille, va pouvoir générer des structures dynamiques qui vont se coordonner dans l'espace à des échelles de quelques dizaines de microns à quelques centaines de microns, mais aussi dans l'espace à des échelles qui vont aller de la seconde à quelques heures. Et donc ici, je vais pouvoir introduire le mot de coordination. Et ce concept de coordination de systèmes a émergé notamment dans les années 70 avec les études sur les systèmes hors équilibre faites par Ilya Prigogine, Et un exemple, dans le cas du vivant, je préfère parler d'état dynamique stationnaire, mais j'y reviendrai. Et un exemple classique de ces de coordination dans un système est cette expérience, assez facile à comprendre. Vous prenez un récipient d'eau et vous chauffez le dessous de ce récipient et vous refroidissez la surface de ce récipient. En gros, vous allez vouloir avoir l'eau froide qui va vouloir descendre, l'eau chaude qui va vouloir monter, et ces deux phénomènes ne vont pas pouvoir se faire en même temps sans une certaine coordination. Et cette coordination, qu'on va appeler lors de l'auto-organisation, va se manifester par l'apparition de patterns qu'on appelle des patterns de convection. Et en fait, le système va s'auto-organiser. Donc si on applique cette théorie à deux objets en interaction, un objet A et un objet B, cet objet va pouvoir interagir avec lui-même ou avec l'autre objet. Et si nous sommes dans un système hors équilibre, on va pouvoir ainsi avoir l'apparition de structures complexes qui, à partir de petites fluctuations, vont pouvoir donner d'autres structures un peu plus complexes. Donc si on applique ces théories au vivant, en fait, le vivant va fluctuer entre ordre ou équilibre et désordre ou chaos, et à l'aide de petites fluctuations, va pouvoir se constituer. Alors, l'exemple que j'ai pris, c'est un exemple que je connais bien, c'est celui du cytosquelette. Ici, vous avez une entité de base qui est le monomère. Ce monomère va pouvoir s'assembler dans ce qu'on appelle un polymère biologique, qui est le filament. Ce filament va pouvoir s'organiser en structures plus complexes qu'on appelle des réseaux. Et ces réseaux vont contraindre la forme des cellules et leur permettre de s'organiser en tissu. Et donc, à partir de maintenant, je vais essayer d'illustrer quelques principes généraux à l'aide d'exemples précis sur l'organisation cellulaire. Et évidemment, ce système va être dynamique, et Julien l'a très bien présenté, et pour rester dynamique, il va falloir l'apport d'énergie. Et pour vous donner un exemple concret de la consommation d'énergie d'un système vivant, pour générer un micron de filament d'actine, il va vous falloir 360 molécules d'ATP. Donc 360 molécules d'ATP, 1 micron de filament d'actine. Donc pour illustrer les principes de l'auto-organisation cellulaire, je vais vous prendre illustrer trois principes et il y en a un quatrième que je ne vais pas illustrer. Donc le premier principe qui est assez facile à comprendre, c'est la compétition pour un nombre limité d'éléments. Et je vais vous illustrer ça. Le deuxième, c'est la génération de polymères biologiques qui vont pouvoir parcourir la cellule comme des routes organisent une ville ou une architecture permet de maintenir une structure d'une maison. La seule différence ici, c'est qu'il y a la dynamique. Vous pouvez imaginer une maison qui va être modifiée suivant les saisons, avoir une forme différente en été ou en hiver. Et enfin, l'exemple que je vais choisir, le dernier exemple, ça sera sur les forces que peuvent être exercées sur les cellules et j'illustrerai les conséquences. Un dernier principe pourrait être la génération de gradients, c'est-à-dire que si vous avez un gradient plus important d'un côté que de l'autre de la cellule, vous allez pouvoir générer de l'organisation. Et bien sûr, le vivant va le plus souvent combiner ces principes pour contrôler sa dynamique. Donc le premier exemple concret, c'est la compétition pour un nombre limité d'éléments. Et donc les travaux que je vais vous présenter sont des travaux qui ont été réalisés en 2014 dans l'équipe du professeur Kovar à l'Université de Chicago. Et le principe est assez simple, c'est que si vous disposez d'un nombre limité d'éléments, vous allez pouvoir construire différentes structures et le nombre de ces éléments va définir la taille des structures. Mais que par exemple, si vous ne construisez pas dans ce cas-là l'avion, mais vous allez pouvoir construire un bateau un peu plus gros, ça va pouvoir devenir un paquebot, ou la maison va pouvoir devenir un château. Donc ça, c'est un principe assez simple. Est-ce que ce principe s'applique au vivant? Donc, l'objet d'étude ici est la levure pombée. Donc c'est un objet qui a quelques microns de taille. Et ce que vous voyez ici, c'est le cytosquelette d'actine. Et en fait, ce qu'il y a de très intéressant avec cet objet, c'est qu'il est simple. En fait, il n'y a que trois structures d'actine dans la levure pombée. Une qu'on appelle l'anneau de cytosinèse, qui va être impliqué dans la division, mais je ne vais pas le mentionner. Et deux autres qui sont les câbles, qui sont des organisations où les filaments vont être rangés en fagots. Et l'autre, ce qu'on appelle les patches, qui sont des structures d'endocytose, où les filaments vont être en réseau. Et donc l'intérêt de ces deux structures, c'est qu'elles utilisent des machineries moléculaires très différentes. de telle sorte qu'on va pouvoir inhiber une structure sans toucher l'autre. Et on va voir comment l'inhibition d'une structure va influencer le comportement de l'autre. Et ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est que ces structures sont formées à partir de l'élément élémentaire commun qui est le monomère. Et pour perturber, souvent dans le vivant ce que l'on fait, on utilise des inhibiteurs. Et dans ce cas-là, on va utiliser un inhibiteur qui va spécifiquement affecter que les patchs. Et vous allez voir ce qui va se passer dans ce film. Donc l'expérience, elle est très facile. Vous avez vos levures, vous rajoutez le drogue, vous regardez ce qui se passe, vous enlevez et vous revenez à l'état initial. Donc ça vous donnera aussi une idée que l'état est dynamique et réversible. Donc vous voyez la dynamique de la structure, vous avez les patchs, vous ajoutez la drogue, les patchs disparaissent, et ce que vous voulez apparaître, c'est que les câbles deviennent non seulement plus abondants, mais plus intenses. Donc il y avait un équilibre à partir de ce monomère qui se distribuait en deux structures, les patchs et les câbles. Si vous éliminez une structure, vous vous faites former beaucoup plus de l'autre. Donc à partir de là, le concept est assez simple. La compétition pour l'utilisation d'un nombre limité d'éléments définit à la fois la taille et la densité de différentes architectures. Donc ici, j'ai pris l'exemple du cytosquelette parce qu'on est bien, mais vous pouvez imaginer utiliser ce principe pour plein d'autres systèmes que vous étudiez. Le deuxième exemple, c'est l'assemblage de polymères biologiques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un polymère biologique? Ils ont une grande diversité. J'ai pris trois exemples ici. Donc, ils ont une diversité de formes entre un filament d'actine, un microtubule ou un brin d'ADN. Ils ont une différence de dynamique, la cinétique de formation, et aussi ils ont une différence de propriété mécanique. Donc, si vous prenez un filament d'actine, il va avoir une propriété mécanique qui est caractérisée par sa longueur de persistance. En gros, c'est la définition de comment l'objet maintient sa forme sur fluctuation thermique. Et ici, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que le filament d'actine a une longueur de persistance qui correspond plus ou moins à une cellule. Donc le filament dans la cellule va agir comme une espèce de ressort et pouvoir exercer des forces. Un microtubule, vous voyez, sa longueur de persistance est de l'ordre du millimètre. Donc en fait, ça va être un objet qui va être le plus souvent rigide, bien sûr, il y a toujours de la complexité dans le vivant, et qui va servir de rail pour le transport. Et le brin d'ADN, vous voyez, sa longueur de persistance, c'est 45 nanomètres. Donc le brin d'ADN va être... sa propriété mécanique va être faite pour la compaction à l'intérieur du noyau. Donc vous voyez un petit peu comment une propriété mécanique finalement peut dicter un rôle physiologique. Donc je vais plus particulièrement vous parler de l'actine. Donc ici vous avez une image faite par Christophe Leterrier, où vous voyez les réseaux d'actine dans une cellule. Donc vous voyez que c'est assez complexe, mais on peut un petit peu classifier cette complexité en montrant les différents types d'organisation que peuvent prendre ces filaments d'actine. Donc ils peuvent être organisés en structures parallèles, en réseau ou structures antiparallèles. Ce type de structure, ce sont des structures contractiles similaires à ce que vous avez dans vos muscles. Et en fait, l'organisation de ces structures va définir le rôle physiologique de la structure. Mais alors, ce que l'on peut faire pour vraiment simplifier le système maintenant, c'est de purifier le monomère et essayer de déclencher de l'assemblage in vitro, en absence d'aucun constituant cellulaire. C'est exactement ce que vous allez voir. Donc ici, ce que vous voyez, c'est une expérience réalisée in vitro, avec une imagerie un petit peu spécifique, et chaque bâtonnet que vous voyez est un filament individuel. Et donc c'est pour ça que le titre de cette diapo se dit est l'auto-assemblage versus auto-organisation. Ici en effet vous avez de l'auto-assemblage, mais vous n'avez pas d'organisation spécifique qui émerge. Donc il manque quelque chose pour organiser votre système. Et ce qui manque dans ce cas, c'est d'imposer des conditions limites. Si vous imposez des conditions limites, vous allez pouvoir reproduire la même expérience et voir des organisations émerger. C'est exactement ce que je vais vous montrer ici. Et pour imposer des conditions limites, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des géométries de protéines. Ici, c'est une barre d'environ 30 micromètres sur 3 micromètres. Et c'est cette géométrie de protéines qui va déclencher l'assemblage. Et vous allez voir la structure qui va émerger. Donc on est dans un milieu de polymérisation. Et voici ce que vous obtenez. Donc maintenant, vous obtenez une structure avec une organisation bien définie où les filaments vont s'aligner en faisceau comme dans une cellule, et sur la barre, vous avez des réseaux aussi comme dans une cellule. Et l'intérêt de ces approches, c'est que vous allez pouvoir modifier maintenant la géométrie et de poser la question de comment la géométrie affecte l'organisation. Et vous allez pouvoir mettre en évidence des principes entre géométrie et organisation. C'est exactement ce que vous allez voir ici. Donc ici, on a pris deux types de géométrie, un anneau ou une étoile à 8 branches. Et on a répété exactement la même expérience. Et ce que vous voyez ici, c'est que dans un cas, vous obtenez ce type d'organisation, et dans l'autre cas, vous obtenez une organisation complètement différente. Pourtant, la biochimie dans les deux cas est identique. Les molécules qui s'assemblent sont les mêmes. Toutes les réactions mises en jeu sont identiques, et pourtant, vous voyez, il y a très peu de similitudes dans les organisations obtenues. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que si vous comparez maintenant les structures obtenues dans cette organisation réalisée in vitro, vous retrouvez toute la complexité du vivant. En effet, cette structure-là est très similaire à ce que vous avez à l'avant d'une cellule. Les structures sur les branches de l'étoile se retrouvent à l'avant de cette cellule. Et au milieu de l'étoile, vous retrouvez des structures antiparallèles que vous avez dans les structures contractiles. Donc en fait, ce type d'approche simplifiée vous permet de simplifier la complexité du vivant pour essayer d'en comprendre sa dynamique. Et l'intérêt de ces approches aussi, expérimentales, c'est qu'elles peuvent être couplées à des approches théoriques. Alors, une chose que je voulais vous mentionner aussi, c'est qu'en maintenant les conditions limites, le système est excessivement reproductible. C'est-à-dire que si vous regardez un individu ici et que vous réalisez l'expérience plusieurs fois, la somme des individus va être une copie conforme de l'individu isolé. Donc, en imposant les conditions limites, non seulement vous générez de l'auto-organisation, mais vous contrôlez cette auto-organisation. Donc, comme je vous disais, on pouvait coupler ces approches expérimentales à des approches théoriques. C'est un travail en collaboration avec un groupe d'Heidelberg. Donc, on a utilisé un système de simulation. Et en fait, ce que je voulais vous introduire les paramètres importants. Et finalement, ces paramètres importants sont des paramètres génériques pour l'auto-organisation. D'une part, il y a la nucléation, c'est-à-dire comment le système va s'initier. L'élongation, c'est-à-dire comment le système va s'amplifier ou grossir ou s'étendre. Et ensuite, il y a la propriété mécanique du système et l'interaction entre les différents éléments. Et à partir de ces règles générales, vous pouvez obtenir in silico une organisation complexe. Maintenant, la question que vous posez, c'est est-ce que cette organisation complexe peut prédire certaines organisations que vous aurez expérimentalement ? Et donc, c'est exactement ce que vous voyez ici. On a utilisé deux géométries différentes, une géométrie en carré ou une géométrie en triangle. Et on a réalisé des simulations. Et les simulations prédisent que, dans un côté, les filaments vont s'organiser comme ceci, de l'autre, les filaments vont s'organiser différemment. Et l'intérêt des approches, c'est que maintenant, on peut réaliser l'expérience. Et on voit en effet que l'outil modélisation permettait de prédire l'organisation dans nos expériences. Et donc, on peut utiliser les simulations comme un outil prédictif du comportement du vivant et de son auto-organisation. Alors, là, je vous ai parlé de systèmes in vitro. Est-ce que ces principes d'auto-organisation peuvent s'appliquer au niveau des cellules? La réponse est oui. Et si vous prenez une cellule et que vous lui imposez des conditions limites, alors comment on impose des conditions limites aux cellules? On réalise un pattern d'adhésion. C'est-à-dire qu'on va avoir une géométrie de protéines que la cellule va reconnaître, va adhérer et va adopter la forme de cette géométrie. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Si vous prenez une cellule qui avait cette forme, vous la mettez sur un disque et elle va adopter la forme d'un disque. Donc ici, on n'est plus dans un système in vitro, on est dans le cadre d'une cellule. Et ce que vous voyez aussi, c'est le cytosquelette. Et le cytosquelette sur le disque va adopter une organisation qui est similaire à l'avant de la cellule. Alors, on peut maintenant varier la géométrie, on peut prendre une croix, la cellule va adopter la forme d'un losange et l'organisation du cytosquelette va être similaire à ce que vous avez à l'arrière d'une cellule. Après, vous pouvez faire un petit peu de maths, c'est prendre un disque plus une croix et ce que vous obtenez, c'est une arbalète. et vous allez avoir la moitié de la cellule qui a la forme de ce que vous avez au niveau du disque, et l'autre moitié de la cellule qui a la forme que vous avez au niveau de la croix, et vous retrouvez la complexité d'une cellule avec un avant, où les filaments sont organisés de cette façon, et un arrière de la cellule. Quand je dis avant et arrière, parce que cette cellule va se déplacer vers l'avant. Et l'arrière de la cellule, où les filaments vont avoir une autre organisation. Donc là, ici, je vous ai simplement introduit des principes généraux de l'auto-organisation via l'auto-assemblage de polymères biologiques. Le dernier exemple, c'est l'utilisation de force. Et pour ça, j'ai utilisé un travail qui a été réalisé récemment par Mathieu Piel à l'Institut Curie, qui a été publié récemment. Donc ici, vous avez une cellule qui va être sur un milieu non adhésif, contrairement à ce que je vous ai montré juste avant. Et donc, vous allez voir que la cellule a une forme qui est assez ronde. Et dans ces expériences, l'équipe de Mathieu Piel est venue contraindre la cellule en la confinant. Donc en gros, on est venu écraser la cellule, on est venu exercer des forces sur cette cellule, et vous allez voir ce qui se passe, c'est assez magnifique. Donc vous avez la cellule qui est ronde, on exerce une forme, un confinement, et vous voyez, il y a une réorganisation morphologique de la cellule, et elle va se mettre à se déplacer. Donc vous voyez comment les forces peuvent induire des phénomènes d'auto-organisation qui peuvent conduire à la motilité. Et en fait, dans ces expériences, il y a deux paramètres qui sont très importants. Et ce sont des modélisations qui ont été faites par Raphaël Voiturier. Il y a le paramètre de l'adhésion avec son environnement et de la contractilité. Et en faisant varier ces deux paramètres, vous allez pouvoir, à l'état initial, avoir une cellule de forme ronde, et la cellule va pouvoir changer de forme et adopter différents comportements, et ainsi vous allez pouvoir expliquer les différentes formes de motilité que peut avoir une cellule. Donc, pour résumer un petit peu ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, je vous ai présenté quelques principes qui contrôlent l'auto-organisation et qui peuvent être utilisés par des systèmes complexes pour contrôler un état dynamique stationnaire. Donc ces éléments sont la compétition pour les éléments, l'assemblage de polymères, la force et les gradients. Et bien sûr, les êtres vivants vont utiliser le plus souvent une combinaison de l'ensemble de ces principes pour générer le type de dynamique que vous voyez ici. Donc, comprendre ces principes est évidemment fondamental pour comprendre la dynamique du vivant, mais, et ça c'est la dernière diapo que je voulais mettre dans ma présentation, mais aussi on peut détourner le vivant pour s'en inspirer et pour essayer d'aller générer de nouvelles structures ou de nouveaux matériaux, ce qu'on appelle les matériaux bio-inspirés. Donc j'ai essayé de vous prendre quelques exemples où l'auto-organisation peut être une source de bio-inspiration. Donc ici, vous pouvez par exemple générer des structures qui sont contrôlées au niveau nano ou microscopique. Le cas ici, ce sont des briques générées à partir d'ADN. Donc en contrôlant l'assemblage de l'ADN, vous allez pouvoir générer des géométries parfaitement contrôlées à une échelle nanoscopique. C'est des travaux qui ont été réalisés dans le groupe de Penguin à Harvard. Bien sûr, je vous ai déjà parlé de l'assemblage du cytosquelette, mais on peut rajouter un autre aspect dans ces structures, c'est le transport. On peut y ajouter des transports moléculaires. Ici, vous voyez ces petits points verts, ce sont des moteurs moléculaires qu'on appelle des kinésines et qui sont transportés le long des microtubules. Et donc, on pourrait imaginer utiliser ces kinésines pour transporter des cargos et délivrer des objets à des précisions qui vont l'être de l'ordre du nanomètre. On peut aussi coupler l'ingénierie de l'ADN et l'ingénierie de protéines pour reconstituer des structures, par exemple une fibre musculaire. Ça, c'est des travaux qui ont été réalisés à l'Université de Michigan. Ici, la fibre va être remplacée par un tube d'ADN et les moteurs moléculaires vont être positionnés très spécifiquement de telle sorte qu'on va pouvoir recréer une fibre musculaire synthétique. Et le dernier exemple, c'est que l'on peut utiliser l'auto-organisation pour générer des structures en 3D. Ici, ce sont des structures en 3D de filaments d'actine. C'est des travaux qui ont été réalisés dans notre groupe. Et ensuite, on peut utiliser ces structures 3D pour les métalliser et générer des connexions électriques en 3D. Donc, vous voyez que le vivant peut être comprendre la dynamique du vivant peut être utile pour comprendre le vivant, mais aussi pour générer des structures complexes. Je voudrais simplement remercier les membres de l'équipe, et plus particulièrement Manuel Théry, avec qui je co-dirige cette équipe, et avec qui j'ai beaucoup discuté pour cette présentation. Je voulais remercier Agnieszka pour les illustrations, et les organismes et les sources de financement. Et je voulais vous finir par un très bel exemple d'auto-organisation.
Merci beaucoup. Donc maintenant, on passe aux questions sur cette thématique-là. Au fond. Moi, j'avais déjà une première chose, c'est vous avez bien parlé effectivement du problème de l'ATP, etc., mais il y a toujours le côté de l'utilisation de l'énergie dans la cellule. La cellule est fragile, et même si c'est inhérent, ça fait partie de ce qu'on enseigne tout le temps, c'est que la libération d'énergie doit être relativement faible pour ne pas détruire la structure qui l'abrite. Et donc c'était une question qu'il fallait toujours rappeler, parce qu'on oublie toujours ce problème-là.
Bonjour, je suis Yago Bonici, donc biologiste et maintenant de nouveau étudiant en informatique. Et je me demandais, j'étais curieux au sujet de système que vous nous aviez présenté, Ludovic, dont vous disiez qu'ils s'adaptaient à leur environnement sans dépenser d'énergie. Je voulais savoir s'ils étaient exotiques, s'ils étaient nombreux, s'ils étaient rares, s'ils étaient limités par rapport à la cellule.
Non, je veux dire, n'importe quelle réaction à l'équilibre chimique, prenons par exemple l'ionisation de l'acide acétique, va s'adapter aux variations de température et de pression, donc c'est un système auto-adaptatif, mais en revanche, il est sous contrôle, on va dire, thermodynamique, donc le système va simplement s'adapter aux contraintes extérieures. Donc la propriété d'auto-adaptation, en soi, n'est pas une propriété intrinsèque des êtres vivants. Ce qui est plus singulier, c'est précisément le fait de gérer l'énergie pour avoir une diversité phénotypique, une instabilité dynamique très particulière qui permet justement d'avoir des transitions extrêmement brutales pour des variations faibles. Je pense à la métamorphose, par exemple, en biologie, comme un phénomène pour un chimiste qui est stupéfiant complètement. Je veux dire, ce changement d'organisation et de forme avec des variations assez ténues, ça, ce type de transition, on ne l'a pas dans un système en contrôle thermodynamique. On a une certaine continuité du point de vue de l'organisation, de la composition.
Et vous pensez qu'elle est permise par la dépense d'énergie ?
En tout cas, il existe des mécanismes. C'est l'avantage de la vie en tant que, finalement, développement d'un processus particulier sur Terre, de montrer qu'on peut obtenir cela. Mais à nouveau, ça ne vous permet pas nécessairement si facilement de concevoir un système, un mécanisme qui vous permettrait justement de reproduire les phénomènes du vivant. La part, on va dire, de travail conceptuel qui reste, c'est de définir, on va dire, le pool de processus minimaux et les contraintes extérieures dont a parlé Laurent, au sens des contraintes aux limites, pour avoir une histoire qui se développe et qui aboutit à ce genre d'organisation.
Christiane Binot, médecin-chercheur. L'auto-organisation en phase cristal liquide est peu explorée au sein des processus biologiques. Y a-t-il une raison limitant l'étude des mésophases de la matière organique, alors que, par exemple, de nombreuses maladies neurodégénératives présentent des propriétés amyloïdes et biréfringentes ?
Alors, de fait, il y a eu des travaux, et il y en a encore, je pense aux travaux de Françoise Livolant, pour donner un exemple sur Orsay, du questionnement à nouveau du comportement réactif dans des milieux donc, qui sont cristaux liquides. Dans son cas, c'était de l'ADN compacté. Et de fait, il faut s'attendre à avoir des réactivités avec des cinétiques qui soient un peu différentes. Pour le reste, tous ces phénomènes d'encombrement à l'intérieur des cytoplasmes, etc., vont affecter les processus, en particulier les processus de transport. Assez peu la chimie, d'une manière générale, parce que la chimie est rarement sous contrôle des phénomènes de transport et beaucoup plus sous contrôle de la réaction elle-même. Donc, du coup, si on me demandait de prendre un pari, je n'attends pas d'altération trop conséquente de la réaction chimique. Maintenant, de la manifestation couplée au transport, c'est une autre chose.
Je voulais juste rajouter qu'il y a un domaine émergent, c'est la génération de phases dans le vivant. C'est-à-dire que si vous voulez mélanger deux objets, vous pourriez imaginer qu'ils sont parfaitement, qu'on obtient une structure parfaitement homogène. En effet, ce n'est pas forcément le cas. Il y a de plus en plus de travaux qui montrent qu'on va séparer les objets et obtenir deux domaines différents. Et donc, je pense que dans ce sens-là, ces recherches vont alimenter ces réflexions.
Oui, bonjour. On a vu cet exemple, cette présentation de l'auto-organisation. Et ce qui m'a un peu frappé, c'est qu'on avait l'impression d'une présentation du vivant où des règles très simples permettent de faire émerger des structures complexes, assez bien visibles. Et d'un autre côté, un chimiste auparavant qui nous montrait qu'il était déprimé par la complexité des chaînes réactionnelles qui sont présentes dans la cellule. Et notamment pour la polymérisation de l'actine, on sait qu'à différents endroits de la cellule où l'actine sert différentes fonctions, il y a un ensemble moléculaire protéique très différent. Donc, est-ce que je comprends mal les choses et que vous pouvez, vous avez un programme de recherche avec une forte valeur heuristique pour lequel je suis très admiratif, mais qui vous permet d'ignorer l'usine à gaz en termes protéiques qu'est la cellule, ou est-ce qu'il y a aussi une intégration de ces chaînes réactionnelles, de ces interactions protéines-protéines dans votre programme d'auto-organisation?
Non, vous avez tout à fait raison, mais une façon d'aborder la complexité du vivant, c'est il y a deux façons d'aborder la complexité du vivant. C'est l'aborder dans toute sa complexité ou essayer de simplifier le vivant pour essayer de déterminer des lois simples qui seraient masquées par cette complexité. Donc ça, c'est plutôt la stratégie qu'on a de recherche, et c'est les quelques exemples que j'ai donnés. Mais évidemment, par exemple, pour le cas du cytosquelette, il y a à peu près 60 familles de protéines qui interagissent et qui vont contrôler cette organisation. Bien sûr que si on remet 60 familles de protéines dans un tube à essai en in vitro, on va se retrouver dans un niveau de complexité qui va être identique à celui du vivant. Donc ce n'est pas la stratégie qu'on a pour l'instant, c'est essayer de simplifier. Mais vous voyez quand même qu'on arrive à la fois au niveau cellulaire et au niveau in vitro, en utilisant des outils technologiques communs, à pouvoir comparer des systèmes de complexité et d'échelles différentes. Et donc c'est la direction des recherches que l'on a dans notre équipe, et il y a plein d'autres équipes, c'est essayer justement de développer des outils communs pour comparer des systèmes de complexité différentes. Et maintenant, on va même jusqu'au tissu. Et je pense que ça, c'est une des façons d'aborder la complexité du vivant.
Je vais faire juste un petit additif par rapport au chimiste déprimé, parce que le chimiste n'est jamais déprimé, en l'occurrence. C'est juste qu'à nouveau, il faut être attentif quand on regarde un objet biologique. J'ai dit qu'il est fort d'une histoire et il est intégré dans un système. Donc si on analyse une fonction spécifique, qui était le cas de la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique, on peut trouver des solutions beaucoup plus simples. Et là, l'idée, justement, c'est de s'abstraire de toute cette complication apparente. Il y a plein d'atomes, c'est des molécules énormes, il y en a beaucoup, etc., etc., pour aller essentialiser sur la fonction qu'on vise. Là, la difficulté, c'est vraiment le projet. C'est-à-dire, est-ce que c'est la fonction élémentaire que j'ai représentée ou est-ce qu'on veut créer un système vivant? Et du coup, le type de réponse qu'on va apporter n'est pas le même. Mais à nouveau, retenez que le chimiste n'est jamais déprimé.
Grégoire Michaud, biologiste. J'ai une question pour le chimiste. Parce que tout à l'heure, on a vu que le vivant, c'est la mort. Et ça, en tant que biologiste, j'en suis persuadé. C'est pas seulement la mort de l'organisme, mais c'est aussi la possibilité de se dégrader certaines parties pour pouvoir s'entretenir. Est-ce que vos êtres vivants chimiques vont être capables de s'auto-dégrader pour s'entretenir ou même de mourir?
C'est une excellente question. Il faut absolument introduire la dégradation pour obtenir la caractéristique vivant, parce que sinon, ça ne marchera pas, on va dire. Et donc, effectivement, une des questions qu'on peut se poser, c'est il va falloir tuer des êtres vivants chimiques, peut-être, dans pas très longtemps. Donc, voilà, au moment où il faut respecter les animaux, pour moi, en tant que chimiste, à nouveau, tuer un système chimique, c'est une transgression que je n'ai jamais pratiquée encore. Il va falloir voir ce qu'on fait. Mais oui, ça fera partie, à mon avis, du programme.
Pierre Strazewski, Université Claude Bernard, Lyon 1, chimiste. Donc j'ai une question à toi, Ludovic, parce que j'ai beaucoup aimé dans ta présentation la dernière phrase. Je suis très d'accord que même bientôt, tu dis, la tâche des chimistes est aussi d'approcher un système de façon intégrant toute la complexité dès le départ. Et je suis curieux, comment tu penses que les chimistes vont créer comme... En fait, Claude Bernard, on a débordé ça dans la première session, c'est la création, la vie. Donc créer quelque chose qu'on pourrait appeler vivant. À partir de quand, nous, communauté de chercheurs, vont dire, OK, ça, je pense que ça, déjà, c'est vivant. Et peut-être, comment y arriver ? Grosso modo, naturellement, seulement.
Je pense qu'un des plus gros obstacles, c'est un obstacle culturel et communautaire. J'en ai un peu parlé, en fait. C'est ça qu'il va falloir déjà qu'on arrive à vaincre, d'une certaine manière. Derrière, donc, il y aura cette question, mais qui n'est pas une question, de mon point de vue, totalement intéressante, qui est celle de la définition du vivant. Je pense qu'on va tâtonner, parce que c'est un concept assez mou, vu du point de vue physico-chimique. On aura des critères, donc chacun dira, bon, bah, mon système fait cela. Et donc, si je regarde d'un point de vue historique l'accélération du développement des travaux en systems chemistry que tu connais bien et les publications récentes, je pense qu'en gros, à l'échelle de 10 ans, on devrait être capable d'obtenir des systèmes chimiques, abiotiques, qui présentent des comportements intégrés, assez évolués, beaucoup plus que ce qu'on a déjà. Je veux dire, on synthétise maintenant des réactions oscillantes, on synthétise des comportements dynamiques proches de manière élémentaire de ce qu'on observe dans les êtres vivants. Donc 10 ans me semble un horizon raisonnable. Je vois des gens jeunes et brillants qui se lancent dans le domaine sans inhibition culturelle. Donc j'ai beaucoup de confiance.
Si je peux rajouter une chose, à partir de brins d'ADN, on peut construire déjà des moteurs moléculaires. Bien sûr, ils sont très peu efficaces par rapport à des kinésines ou des myosines, mais vous pouvez, à partir de ces objets synthétiques, générer du mouvement.
Bien. On va s'arrêter là. De toute façon, vous pourrez continuer de discuter tout à l'heure pendant le repas. Il y aura des pauses, etc. Donc, on va...